Là, j'ai relevé un point qui n'avait pas été abordé jusque-là, c'est la question de la scientificité de la sociologie. Je trouvais ça intéressant, le thème n'a pas été développé, mais la question a été posée incidemment. Est-ce qu'il faut qu'elle soit scientifique? Qu'est-ce qu'on appelle scientifique? C'est quoi les signes de la scientificité? Je laisse ouvert. Personnellement, moi, je suis assez sensible à ce thème-là, mais je mets toujours scientifique avec un petit S, et je dis souvent que je cherche du vrai et pas la vérité. Avec ça, on a un cadre à peu près acceptable, mais je trouve que c'est une question. Quand je dis sociaux, je dis SHS, hein, je dis psychologie sociale, histoire, anthropologie, c'est pareil, dans ce cas présent. Le deuxième point que j'avais noté, c'est la controverse. Et c'est pas simple parce que souvent, on n'aime pas trop les controverses, on n'aime pas trop les relations de pouvoir, et pourtant, l'impression que j'ai, c'est que tant qu'il n'y a pas de controverse ou de relations de pouvoir, ben, il ne se passe rien. Donc là, on rentre après dans la troisième typologie. On tombe dans les poubelles de l'histoire. Un troisième thème qui a été abordé aussi plusieurs fois, je crois que c'est toi qui l'as abordé autour de la question de quand on parle de la mobilité et du report modal. Il me semble que Delphine l'avait abordé aussi. Voilà, c'est quand on repose le problème. Et évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane pour bien penser que ce que m'apporte, moi, le milieu académique, c'est la problématisation, ce que n'a pas le milieu professionnel, et mon ennemi principal, qui sont les trois grandes écoles de commerce, HEC, ESCP et SEC, évidemment que je les accuse de façon absolument éhontée de ne pas savoir problématiser et de ne pas savoir raisonner, parce qu'ils ne connaissent rien à la recherche de mon point de vue. Par parenthèse, j'ai relevé les ennemis que nous avions et qui nous font du bien. Donc j'ai relevé numéro 1, le marketing, numéro 2, les ingénieurs, numéro 3, les élus. Je pense qu'il en manque encore un petit peu. Ouais, pardon. Et moi, j'avais noté les collègues pour moi.
Voilà.
C'est les pires. Mais c'est. Occupez-vous de mes ennemis, mes amis, je m'en charge, disait le. Et puis, je voulais terminer par le fait que. Donc, vous savez, c'est le périmètre, que je trouve très intéressant, et là, ça redevient plus sérieux par rapport aux ennemis, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le périmètre, puisque je me dis qu'implicitement, on a tous dans la tête une espèce de système de causalité d'explication. Je ne sais pas si on est plus psy, ben, à la limite, le périmètre cerveau nous suffira largement. Si on travaille sur autre chose, peut-être que justement, si on est sur le développement durable, on l'a vu pour le BBC, on ne va pas se limiter à l'énergie, il faut aller aussi sur le travail, mais tout d'un coup ça dérange les acteurs. Et pourtant on sait bien que si on n'associe pas les conditions de travail, l'énergie, si on travaille sur des bureaux, hein, on n'aura pas l'ensemble du problème. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir tout le temps réfléchir à comment l'autre avec qui je travaille, et quel périmètre il se définit, à quel endroit il met la causalité, et quand moi je vais lui dire voilà comment il faut reposer le problème, le faire de façon, j'allais dire, aimable. Enfin, il faut trouver. Enfin, comment dire ça? Moi j'ai appris il y a longtemps, comme sociologue, qu'il fallait toujours reposer le problème. Alors, je suis assez d'accord avec ça, mais il y a des fois je trouve ça prétentieux et arrogant, voilà, pour faire court là-dessus. Donc je suis d'accord pour dire qu'il faut reposer le problème. Et j'ai même un indicateur, quand quelqu'un me dit voilà comment on se pose le problème, je suis sûr que si on le pose comme ça, on va dans l'impasse. C'est ton réflexe. Quand on dit est-ce qu'il faut demander aux gens l'opinion, est-ce qu'ils vont aimer ou pas le truc, tu dis non, ils vont pas aimer, de toute façon, c'est ça la réponse. Donc, c'est un problème, comment dire, c'est presque un problème humain de tact, de savoir-faire, comment reposer le problème sans paraître arrogant, tout en montrant que si on reste à la question, si on se limite à l'énergie, si on se limite à tel périmètre, on a peu de chances de trouver une bonne réponse puisque eux sont sur ce périmètre depuis 5 ans, 10 ans ou 20 ans et qu'il n'y a pas de réponse. Moi, c'est mon argument principal, c'est de dire, si on reste sur ce périmètre-là, c'est mon argument avec le marketing, puisque tu es notre représentant ici, de dire.
Je vais vous faire un cours particulier.
Non, le problème n'est pas un problème de cours particulier, c'est un problème de rapport de force. Il faut savoir gérer comme on peut, hein. C'est ça qui est important. Le marketing, l'ingénieur, le sociologue ne sont pas plus. Il faut savoir, il faudrait entendre qu'est-ce qu'on dit de nous quand on n'est pas là. C'est vraiment extraordinaire. Il hein. N'y a pas longtemps, avec Gaëtan, on était face à un monsieur en marketing charmant et intéressant et qui disait, moi j'adore l'anthropologie, mais je ne sais pas quoi en faire. Hein, c'était clair au moins. Et donc, je trouve que cette question du périmètre, elle est importante et en même temps, il faut la gérer humainement. Parce que je comprends très bien que ça ne marche pas, et donc c'est vrai que l'argument que j'ai souvent, c'est de dire, si je pose le problème comme vous, je ne vais rien vous apporter. Autrement dit, j'essaye de me positionner, et je trouve que c'est un peu ce qu'on essaye de faire tous, mais de dire, moi je dis souvent à un client qui me demande, je ne sais pas si je suis pertinent. Je suis intéressé par la question, je ne sais pas si je suis pertinent. Dites-moi comment vous posez le problème, je vais vous dire moi comment je le pose. Alors évidemment, attention, j'ai 68 ans, je suis avec une forte notoriété, et j'ai plus à démarcher, ce qui a été mon rêve pendant 20 ans quand j'avais une société. Je ne démarche plus aujourd'hui, on vient me chercher. Il a fallu attendre 63, 64 ans, donc on a le temps, hein, c'est comme. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Et donc, mais une fois qu'on est dans la position, on vient vous chercher, ce qui est très agréable, on peut être très aimable, tu vois, en plus de ça, pas être grognon, moi c'est le minimum qu'il faut faire. Et essayer de trouver l'angle qui va quand même intéresser la personne tout en lui élargissant son angle. Et souvent j'ai remarqué que ce qu'on cherchait à comprendre, quel que soit ce qu'on met derrière, on essaie d'expliquer par le comportement et non pas par une technique. Donc il faut bien comprendre que si on explique par un comportement, on est déjà complètement en dehors des cadres de l'ingénieur, l'élu à peu près il peut comprendre ça mais autrement, etc. Et pour finir, j'aime bien l'antiphrase « La vie est un long fleuve tranquille ». Je trouve qu'elle est très bien, c'est ce qu'on appelle une antiphrase. Hein, bon, c'est bien. Et que moi, mon mythe que j'aime bien, c'est le mythe de Sisyphe. Et c'est pour ça que j'accepte, je cherche toujours à être opérationnel, à être pragmatique, à avoir les résultats de mon action. Je ne les vois pas souvent et ça ne me dérange pas. Parce que finalement, je me dis, on pousse sa pierre. On ne sait absolument pas à quel moment ça marchera ou non, ce qu'on a envie de faire. Puis parfois, il faut peut-être mieux que ça ne marche pas, du reste, on faisait ce qu'on a proposé. Mais disons que quand ça marche, là, l'exemple donné par Gaëtan était quand même sacrément intéressant, parce que c'est vrai que souvent on le constate, mais on n'y pense pas. On a une opposition, apparemment notre projet s'arrête, mais on ne sait pas si dans un autre coin de l'organisation, ça n'aura pas donné la possibilité à quelqu'un d'agir. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de gâchis, parce qu'on n'en sait rien. Et ça, c'est l'histoire chinoise que j'adore. Et vous allez voir, c'est une belle leçon de vie. Un monsieur avait un fils qui partait chercher des chevaux. Il est revenu avec des magnifiques chevaux. Tout le village le félicite. Il dit, oh, vous savez, c'est peut-être pas si bien que ça. Il va s'occuper des chevaux pour les dresser. Il tombe, il se casse la jambe. Et tout le village vient lui dire, c'est quand même dommage d'avoir un fils qui est aussi handicapé. Il dit, c'est peut-être pas si grave que ça. Une guerre éclate. Tous les fils du village partent à la guerre, sauf le sien, parce qu'il a la jambe cassée. Voilà. Une belle fin. Bon.
Merci.